Même si la science a investi plusieurs domaines de la vie de l'homme en essayant de le rendre heureux, elle n'a pas pu liquider la métaphysique qui demeure un besoin vital. C'est ce que montre Kant qui, bien qu'ayant récusé la métaphysique comme science, soutient qu'il est difficile sinon vain de vouloir y renoncer. Il dit « La métaphysique est pour l'homme un besoin vital et il serait illusoire de voir l'homme y renoncer un jour, tout comme l'homme ne renoncerait pas à respirer sous prétexte que l'air serait pollué. » C'est la même idée que l'on retrouve chez Schopenhauer selon qui l'homme est un animal métaphysique, c'est-à-dire un être qui ne peut pas se passer de questions qui le dépassent parce qu'il est curieux par nature. En vertu de cette curiosité, l'homme se pose des questions du genre « D'où vient l'homme ? Où va-t-il ? Quel est le sens de la vie ? Le sens de la mort ? Existe-t-il une autre vie après la mort ?» etc. Pour montrer que la métaphysique n'est pas encore liquidée, Georges Gusdorf déclare « Loin d'affirmer la décadence de la métaphysique, il faudrait bien plutôt souligner qu'elle est, en un certain sens, universalisée, qu'elle a acquis une sorte de suprématie. Ceci pour dire que la métaphysique est inébranlable, elle est plus présente aujourd'hui qu'hier. » Grand 2, l'anthropologie. La question anthropologique est à la fois scientifique et philosophique. L'anthropologie se présente comme une étude ou une science de l'homme, ou encore une interrogation sur l'homme. Cet être particulier qu'on tente de saisir et de connaître, de sorte que la question qui se pose est de savoir si on peut connaître l'homme. Kant fait de la question anthropologique une préoccupation majeure. Il dit que les trois questions de la philosophie sont « Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ?» Ces trois questions se ramènent à la question « Qu'est-ce que l'homme ?» D'où une philosophie anthropologique chez Kant. L'anthropologie a pour projet une étude rationnelle de l'homme. Mais est-il possible d'avoir une connaissance rationnelle de l'homme ? Dans tous les cas, l'homme est une réalité dont on peut envisager l'étude sous plusieurs angles. Mais deux approches s'imposent, l'approche métaphysique et l'approche scientifique. 1. Approche métaphysique dans le vocabulaire technique et critique de la philosophie. André Lalande écrit « L'anthropologie est la science de l'homme en général ». Cette définition est celle que les philosophes métaphysiciens donnent de l'anthropologie. Ils cherchent le général et non le particulier. Ils cherchent ce qui permet d'unifier les différences, ce qui nous fait penser à Aristote, pour qui il n'y a pas de science du particulier, il n'y a de science que du général. Dire que l'anthropologie est la science de l'homme en général, c'est supposer qu'il existe chez tous les hommes un élément qui permet d'en faire un seul homme malgré leurs différences. Cet élément serait la raison. Selon Aristote, l'homme est un animal raisonnable. On retrouve la même définition chez Descartes qui considère que l'homme est une res cogitans, une substance pensante, ou encore une substance dont toute la nature n'est que de pensée. En étudiant l'homme, la métaphysique met de côté tout ce qui est concret. Elle ne tient pas compte de ses aspects physiques ni même de ses rapports avec le milieu social. Elle étudie l'homme abstrait et non l'homme concret. Une objection a été apportée à cette conception de l'homme par le médecin français Jean Itard, qui, en 1803, a prouvé que, laissé à lui-même dès sa naissance, le petit de l'homme ne verrait jamais les pouvoirs de sa raison se manifester. Jean Itard est parti de l'expérience des enfants sauvages, qui n'avaient développé aucune aptitude qui distingue l'homme de l'animal, c'est-à-dire la raison. Ces faits suffisent pour dire que l'homme n'a pas une nature figée, mais il se construit au cours de son histoire. En résumé, la conception métaphysique de l'homme est très limitée, car elle ne tient pas compte du corps de l'homme, ni de ses rapports avec son milieu et ses semblables. C'est plutôt la conception scientifique qui s'intéresse à ces éléments. Deux approches scientifiques. L'anthropologie scientifique se présente sous diverses formes. Il y a l'anthropologie économique qui étudie la production et la répartition des biens de subsistance, l'anthropologie politique qui s'occupe des formes de pouvoir et l'anthropologie religieuse qui s'occupe des croyances et des rites. L'anthropologie sociale qui analyse les institutions et les croyances sociales, etc., autant la conception métaphysique de l'homme est limitée, autant la conception scientifique est réductrice, car elle écarte tout aspect abstrait de son domaine d'investigation. Elle ne vise à appréhender que ce qui est concret chez l'homme. Or, ce qu'il y a de plus essentiel en l'homme n'est-il pas plutôt d'ordre spirituel ? L'anthropologie scientifique ne risque-t-elle pas de saisir uniquement ce qui est superficiel chez l'homme ? L'anthropologie scientifique devrait plutôt collaborer avec l'anthropologie métaphysique pour faire ressortir tous les aspects humains, apparents, concrets et cachés, abstraits. De l'anthropologie est-elle une science fiable ? Il est possible de dire non, car il y a des obstacles qui empêchent de connaître l'homme. En effet, l'impossibilité de la prévision des comportements de l'homme empêche de fonder une science rigoureuse de l'homme. Le manque de séparation de l'objet étudié, l'homme, et du sujet qui l'étudie, l'homme, est aussi un obstacle pour parler de science. La preuve, mis dans les mêmes circonstances, deux ou plusieurs hommes peuvent se comporter de la même manière ou de manière différente, alors que dans la même situation, deux morceaux de fer ou deux objets de la même nature ont la même réaction. Rigoureusement parlant, l'homme n'est pas soumis au déterminisme. Dès lors, il serait illusoire, voire impossible de prétendre le connaître entièrement, car il est complexe et imprévisible. Par conséquent, on ne peut pas avoir une connaissance exacte de l'homme, on ne peut avoir qu'une connaissance approximative de lui. Grand 3, l'axiologie. L'axiologie peut être définie comme la science ou l'étude des valeurs humaines. Celles-ci sont diverses et se retrouvent dans le domaine de la morale, de la politique, de la religion, de l'art, etc. Les valeurs sont relatives d'une société à une autre et d'un groupe social à un autre. Chaque société est structurée autour de valeurs, de normes et de règles. C'est ainsi que les valeurs peuvent être variables, différentes d'une société à une autre. Mais dans le même temps, il faut reconnaître que beaucoup de sociétés partagent les mêmes valeurs, même quand elles sont éloignées les unes des autres. Les valeurs fixent des objectifs, des idéaux et orientent l'action des individus. C'est un but parfois difficilement accessible. La valeur est comme un idéal, une croyance que l'individu ou le groupe aspire à réaliser. C'est un ensemble de principes que la société ou l'homme se donne et qui servent de boussole à la conduite. En ce sens, la valeur oriente les actions de l'individu et a pour objectif de rendre l'homme bon et meilleur. Parfois, les valeurs ont un caractère quasi sacré, au point qu'on est prêt à sacrifier sa vie pour les sauvegarder ou les réaliser. Les religions, par exemple, se construisent autour de valeurs qui tendent toutes à rendre l'homme bon et meilleur. La philosophie aussi est porteuse de projets de société. Les philosophes indiquent un chemin. Ils disent ce qui doit être à partir des fondements qu'ils posent et des principes qu'ils avancent. Ils interpellent toute conscience humaine en proposant des valeurs humaines. C'est ainsi que depuis Aristote, avec son ouvrage Éthique à Nicomaque, plusieurs philosophes se sont intéressés aux valeurs. On peut citer Kant avec la métaphysique des mœurs, Rousseau avec Émile ou de l'éducation, Nietzsche avec la généalogie de la morale, par-delà le bien et le mal, etc. La valeur serait, pour ainsi dire, ce qu'on tente de préserver ou de perpétuer. Les valeurs sont toujours incarnées par des héros qu'on cite en exemple ou en modèle. Les valeurs religieuses, comme la paix, la tolérance, le respect de la vie humaine, la justice, etc., coïncident généralement avec celles de la tradition. Les religions véhiculent des valeurs et influencent non seulement des cultures, mais aussi des penseurs, des juristes, des législateurs, de sorte que dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, les valeurs dominantes sont celles de la religion. Il faut signaler par ailleurs qu'il y a un conflit permanent dans beaucoup de sociétés entre des valeurs dites dominantes et des valeurs considérées comme marginales et perçues comme des antivaleurs.